BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot au programme aujourd'hui. Comment faire pour recruter des talents qui resteront? C'est la question qu'on posera à la DRH de la semaine, Marianne Yalfani, chez Rakuten. Dans notre focus, on s'intéressera à la fin des horaires de bureau. Et puis en fin d'émission, la carte blanche de Stéphane Moriou. On parle frustration et bonne résolution. Vous verrez ça, c'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Et oui, l'une des vraies missions RH aujourd'hui en entreprise, c'est que les recrues restent dans les effectifs. Comment on réalise ce défi? On en parle avec notre invitée. Bonjour Marianne Yalfani.
Bonjour.
Vous êtes la DRH de Rakuten, la plateforme d'achat-vente. 300 salariés en France, 25 000 dans le monde. Moyenne d'âge entre 32 et 34 ans. L'objectif, c'est de limiter au maximum le turnover.
Oui, tout
à
fait.
Comment vous faites? Parce que c'est pas simple.
Tout à
fait. Surtout quand on a des jeunes équipes qui ont envie aujourd'hui de mobilité, c'est vrai, hein?
C'est vrai, c'est vrai. Alors, le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est justement proposer à ces équipes, à ces collaborateurs de la mobilité, mais en interne, et veiller à leur développement continu, veiller à leur apprentissage continu. On sait que c'est un des leviers principaux de la motivation intrinsèque des collaborateurs, c'est ce sentiment d'être en apprentissage permanent.
Ouais.
Et donc, on essaye que notre organisation leur offre ces opportunités. On a des très bons chiffres sur la mobilité interne et la promotion, puisque environ 20% de nos postes ouverts sont promus sur les deux dernières années par de la mobilité interne.
Ouais.
Je crois qu'on est à environ 5% sur le marché. Donc
vous êtes bien au-dessus, ouais.
On est bien au-dessus. Et c'est assez facile chez nous, cette promotion immobilité. C'est pas tellement poussé par les RH. C'est un vrai réflexe de nos managers, car eux-mêmes viennent de la promotion et de la mobilité interne.
C'est quel type de mobilité? C'est-à-dire, on est au siège à Paris et on va pouvoir aller où, par exemple?
Alors, on n'a qu'un seul site en France. Rakuten France, on est tous sur le siège parisien. Mais c'est vraiment des mobilités entre différentes équipes.
Mmh. Donc,
par
on peut
exemple,
changer de service.
On peut changer d'équipe,
ouais.
On peut changer de service, on peut être promu donc avec une idée d'ascension entre guillemets de dans la hiérarchie, prendre le management d'une équipe.
Donc on peut être manager très jeune si la moyenne d'âge c'est 32-34 ans.
Oui, il y a des très jeunes managers, même au sein de notre comité de direction. Il y a quelques directeurs qui sont très très jeunes.
C'est-à-dire
30-31, notre directeur technique et produit, il était stagiaire chez nous et il a...
Donc les gens restent.
Les gens restent, les gens partent et reviennent aussi.
Ah oui, alors ça, on a fait une émission là-dessus il n'y a pas longtemps, sur les salariés boomerang, ceux qui s'en vont et qui finalement reviennent quelques mois ou quelques années après. Plutôt bon signe, en fait, hein, pour l'employeur, la marque employeur en tout cas.
C'est plutôt bon signe. En effet, lorsqu'on a vraiment identifié ce phénomène, lorsqu'on a travaillé sur notre marque employeur, notre objectif quand on a travaillé sur cette marque, c'était de donner une image réaliste et donner un réel aperçu du quotidien chez nous, des conditions de travail, de la culture d'entreprise, des méthodes de management. Et on a pu identifier en effet ces salariés boomerang.
Est-ce qu'il y a une proximité avec le manager, entre les personnes qui sont dirigées par le manager et cette personne-là qui doit piloter un petit peu les différents services? On imagine d'autant plus que quand les managers sont assez jeunes, ils ne sont pas dans un bureau d'angle avec la porte fermée. Ça n'existe plus, non?
Plus du tout, plus du tout. C'est vrai que nous, on est tous en open space. Il y a beaucoup de valeur à avoir toutes ces équipes qui travaillent ensemble au quotidien. Ça favorise les échanges informels. Et aussi, comme justement nos managers viennent de la promotion interne, ils connaissent très bien le terrain. Ils connaissent très bien les sujets opérationnels et ils ont une très forte crédibilité auprès de leurs équipes.
Ça, c'est important que le manager soit passé par les mêmes étapes que les personnes qu'il manage.
C'est très intéressant, oui. Ça apporte énormément de valeur. Il faut aussi bien sûr recruter à l'extérieur pour qu'il y ait aussi des regards nouveaux et des méthodes de travail nouvelles. Mais bien sûr, la fidélisation, c'est un de nos KPI principaux.
Et alors, une fois qu'on est manager, qu'on le reste pendant 1, 2, 3, 5 ans, C'est quoi les perspectives d'évolution chez vous? Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà? C'est manager une autre équipe?
Ça peut être manager une autre équipe. Ça peut aussi devenir ce qu'on appelle head of, c'est-à-dire avoir plusieurs équipes. Ça peut devenir directeur. On veille vraiment à ces parcours de carrière, à les définir, à identifier. Pour nous, équipe RH, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit temps d'avance sur nos collaborateurs pour pouvoir anticiper et les garder, offrir des opportunités.
Et ça, vous y arrivez? Parce qu'on sait que côté RH, ce n'est pas toujours évident. On est parfois devant le salarié qui va demander l'augmentation avant qu'on ait pu lui proposer ou qui va demander à avoir de la mobilité avant qu'on ait pu, encore une fois, lui offrir.
Oui,
c'est pas simple d'anticiper tout ça.
C'est pas simple d'anticiper. Je pense que la clé, c'est la proximité.
Ouais.
Je pense que la clé, c'est avoir ce feedback, en fait, l'intérêt de la proximité.
J'allais y venir, parce que le feedback, Stéphane Moriou nous écoute, il écoute toutes nos émissions, coach de manager, et il a écrit un bouquin sur l'importance du feedback.
Oui.
On en parle beaucoup dans cette émission. Comment est-ce que vous utilisez ça, ce retour, en réalité, d'expérience
auprès des salariés? Oui, on a des outils pour ça. On a notamment ce qu'on appelle les outils de Pulse, qui nous permettent de mesurer, parce que pour nous, c'est important de mesurer, pour voir l'évolution des choses. Et puis surtout, quand on a des KPI et quand on a vraiment des retours, alors que ça soit qualitatif ou quantitatif, ça nous change totalement notre angle de vue. On peut avoir des intuitions, on peut avoir des ressentis et qui se révèlent être pas tout à fait corrects quand on arrive vraiment à objectiver et à suivre avec des KPI.
Ouais.
Donc on a vraiment des outils, on a mis en place des KPI, on a beaucoup travaillé sur la structuration de la data, parce qu'il faut que la data soit clean et exploitable pour pouvoir transformer tout ça en KPI et les suivre.
Promouvoir autant de femmes que d'hommes, c'est un sujet aussi important, ou c'est même plus un sujet aujourd'hui, on ne fait plus attention, ou il faut quand même être vigilant?
On est vigilant. Nous, on est vigilant. On a amélioré largement notre index égalité hommes-femmes, puisque c'est vrai qu'appartenant au secteur de la tech, sur certains métiers, ça peut être un peu plus challenging. Mais en revanche, sur tout ce qui est promotion, augmentation, on essaie d'être absolument irréprochable et on suit ces KPI de très très près, oui.
Il nous reste une minute, Marianne Yalfani, pour mieux savoir quel manager vous êtes. Et je suis venu, comme d'habitude, avec ma petite boîte du DRH dans laquelle je vous invite à piocher deux petits papiers l'un après l'autre pour compléter en fait la phrase de manière spontanée. Il faut nous la lire et nous dire ce que vous mettriez derrière.
Alors, dans ma boîte, je sensibilise les collaborateurs à, je dirais, à l'engagement. C'est très important pour nous d'avoir des collaborateurs engagés qui sont embarqués par la mission, vision de l'entreprise, par les valeurs de l'entreprise. Et donc, pour nous, notre rôle, c'est de communiquer régulièrement sur cette mission, ces valeurs, et aussi d'incarner.
Et vous y arrivez? Vous avez l'impression que ça fonctionne?
Je pense, en tout cas, pareil, on le mesure et nos résultats ne sont pas trop mauvais sur l'engagement.
Très bien, je vous laisse prendre un dernier, tirer un dernier papier et compléter la phrase.
Dans ma boîte, les managers sont...
Ah bah tiens, ça tombe bien,
oui,
on en a parlé.
Oui, ça rejoint ce qu'on a dit, je dirais proche du terrain, crédible, proche de leurs équipes.
Merci d'avoir joué le jeu, Marianne Yalfani.
Merci à vous.
Merci beaucoup DRH de Rakuten d'avoir été avec nous. Tout de suite, on retrouve notre expert pour les réponses à vos questions.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on joint tout de suite Mathieu Valence, avocat en droit social, pour répondre à cette question sur les indemnités qui nous est adressée. Mathieu, écoutez bien. Si mon employeur me verse une indemnité transactionnelle, est-ce que je peux éviter le différé des indemnités Pôle emploi, Mathieu?
C'est une question récurrente lors des négociations de rupture du contrat de travail. Si je perçois une indemnité transactionnelle lors d'une négociation avec mon employeur, est-ce que ça va générer un différé d'indemnisation Pôle emploi? La réponse est oui, c'est ce qu'on appelle le différé supralégal. Plus l'indemnité transactionnelle que je vais percevoir est importante, et plus je vais avoir un décalage dans le versement de mes indemnités de retour à l'emploi. C'est une question qui est fondamentale parce que ce différé il peut atteindre 150 jours, c'est-à-dire 5 mois pendant lesquels je ne vais absolument percevoir aucun revenu. Il y a une solution intéressante qui existe, c'est de signer un procès-verbal de conciliation devant le Conseil des prud'hommes. L'intérêt, il est pour tout le monde. Pour l'employeur, ça va lui permettre de sécuriser la rupture. Et pour le salarié, l'intérêt est double. Pas de différé d'indemnisation Pôle emploi et pas de fiscalité non plus dans la limite du barème fixé par le Code du travail. Donc c'est une solution intéressante qui va permettre de débloquer parfois des négociations un petit peu compliquées.
Merci Mathieu Valence, avocat en droit social chez Valence Avocat. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller tous nos avocats en droit du travail sur la seule adresse à laquelle il faut écrire, happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
Les horaires de bureau ont-ils encore un sens? C'est la question qu'on se pose avec nos invités que j'accueille sans plus tarder. Bertrand Martineau, bienvenue.
Bonjour.
Économiste à l'Institut Montaigne, vous êtes à l'origine d'une étude qui montre notamment que les heures de bureau ne sont plus tout à fait la norme. On va y revenir en détail. Et à vos côtés, Stéphanie Robin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la DRH du groupe Elsia, éditeur de logiciels pour les professionnels de la menuiserie. Vous êtes à côté de Lyon, un pionnier des horaires à la carte, puisque vous offrez la possibilité à vos salariés de définir eux-mêmes leur plage de travail. Est-ce que ça marche?
Alors, ça fonctionne très bien. On a des retours extrêmement positifs de nos salariés sur ce nouveau dispositif mis en place depuis 2019, ce qui leur permet en fait d'arriver jusqu'à 10 heures le matin et de quitter l'entreprise à partir de 16 heures le soir, tout en ayant la possibilité de reporter leurs horaires d'une semaine sur l'autre en fonction de leur charge de travail et aussi de leurs contraintes personnelles.
Donc, une très grande souplesse quand on aurait pu croire impossible il y a encore quelques années. Bertrand Martineau, vous avez mené une étude pour l'Institut Montaigne justement à ce sujet sur est-ce qu'il y a encore un sens à donner des horaires de travail et puis comment s'organise le travail aujourd'hui dans les entreprises. On constate effectivement que ça change assez vite ces derniers temps.
Alors déjà, il y a une très grande appétence des salariés, quels que soient les secteurs, quel que soit leur âge, pour une plus grande flexibilité des horaires. C'est-à-dire en fait une individualisation des horaires, mais beaucoup plus importante que ce qui se passe jusqu'à maintenant. Donc la notion d'horaire collectif tend à, non pas à disparaître, mais à être combattue en quelque sorte par beaucoup de salariés. Alors cela étant, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup d'organisations du travail qui sont contraintes par le modèle économique qui fait que la caissière de supermarché, elle a des horaires, oui. L'enseignant, il a des horaires.
Ça va vraiment dépendre du type d'entreprise.
Bah oui, on commence pas sa classe quand on veut, on va pas dans un bloc opératoire à l'heure où on veut, enfin c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Donc c'est quoi, c'est plutôt l'industrie?
Alors, il y a beaucoup de flexibilité dans l'industrie, dans le secteur tertiaire, dans toutes les professions intellectuelles, en fait. Et en particulier, évidemment, pour les, quand même, 33% des salariés, à peu près, qui télétravaillent régulièrement, c'est-à-dire au moins un jour par semaine. Cela, on peut dire que, pour beaucoup d'entre eux, la notion d'aire de bureau a déjà pas disparu.
Mais ça n'a plus trop de sens, quoi.
Voilà, il y a une zone grise entre le travail et le non-travail. Il y a aussi quelque chose de très important, qui n'est pas forcément souhaité, d'ailleurs, par les salariés, mais c'est une évidence qui caractérise l'évolution du travail, c'est le travail après 20 heures et le travail le week-end. C'est-à-dire que la séparation est de plus en plus faible en fait entre le travail et le non-travail. On y reviendra peut-être.
On voit qu'effectivement on arrive à plus d'horaires décalés, moins traditionnels qu'avant, avec l'arrivée de cette souplesse dans l'organisation du travail.
Oui, absolument. À la fois, nous, en tant qu'RH, on est aussi vigilants au droit à la déconnexion de nos salariés. Mais malgré tout, cette autonomie, cette flexibilité, ça leur permet vraiment de gérer de façon très flexible leur agenda. Et quelque part, ça leur apporte aussi beaucoup de confort.
Mais l'enjeu quand même pour votre équipe RH, Stéphanie Robin, chez le groupe Elsia, c'est de garder une entreprise tout à fait organisée, où on continue à produire de la même manière, où on continue à faire de la croissance aussi, où tout le monde, a ce bien-être au travail, mais où les rouages continuent de bien fonctionner.
Évidemment, c'était la principale crainte de mes dirigeants quand on a poussé ce changement-là, à savoir la productivité de nos équipes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça n'impacte ni leur professionnalisme, ni leur productivité. Puis j'ai envie de vous dire, ça, c'est aussi une question de management derrière. C'est-à-dire que la confiance sur laquelle est basé ce dispositif n'exclut pas le courage managérial d'aller dire les choses quand il y a des dérives.
Bertrand Martineau, le fait qu'on voit dans cet exemple, mais d'autres encore, que ça peut fonctionner, c'est matière à encourager à aller plus loin dans ces démarches-là?
Certainement. C'est-à-dire que toutes les organisations qui ont la capacité économique d'aller dans cette direction sont bien inspirées de le faire. Mmh. Parce que les salariés votent avec leurs pieds, en fait. Mmh. Et donc, les entreprises qui ne font pas attention suffisamment à cette individualisation du temps de travail risquent d'avoir des turnovers extrêmement élevés. C'est ce qu'on constate d'une entreprise à une autre dans un même secteur économique. Il y a des entreprises qui se comportent plus ou moins bien de ce point de vue-là. Et l'efficacité économique est effectivement au rendez-vous. Mais encore une fois, j'insiste, ce n'est pas possible dans toutes les organisations, dans tous les secteurs économiques. Et il y a des contraintes économiques, par exemple, d'ouverture au public, qui font que on peut pas faire absolument n'importe quoi. Mais même à l'intérieur de ces contraintes, par exemple, dans le secteur du commerce, on peut avoir des organisations quand même plus ou moins flexibles et plus ou moins intelligentes.
Stéphanie Robin, chez vous, ça marche. On est dans l'industrie. Mais il y a aussi du travail de bureau, hein, j'ai bien compris.
Absolument.
Eux aussi ont droit à du travail à la carte.
Oui.
Tout le monde fait ses heures. À la fin de la semaine, on a fait les, je sais pas, 35, 37 heures.
Alors nous, on est sur une base de 39 heures hebdomadaires pour un minimum de 36 heures travaillées sur la semaine jusqu'à un maximum de 42 heures. Donc c'est cette flexibilité, cette possibilité de report d'une semaine sur l'autre.
Mais vous avez un moyen de contrôler tout
Bien sûr. Ouais. En fait, la contrepartie légale de ce dispositif, c'est forcément le contrôle du temps de travail de vos salariés par l'intermédiaire d'un outil digital de déclaration du temps de travail. On est très loin de la badgeuse ou de la pointeuse, mais on est vraiment dans du déclaratif en fin de semaine, parce qu'en cas de contrôle URSSAF, il faut que je puisse justifier les temps de mes salariés.
Et l'inspection du travail, j'imagine qu'il veille aussi à tout ça, parce que oui, on est pour de la souplesse, parce qu'on veut que ça se passe bien dans les entreprises, aussi bien côté direction que les salariés. Mais il y a des contrôles aussi qui sont faits, qui sont effectués.
Bien sûr, ça pourrait l'être. Hein. Demain, on pourrait avoir un contrôle URSSAF sur les temps de travail de nos salariés. Mais aujourd'hui, on a vraiment mis des garde-fous et on a sécurisé ce dispositif.
On voyait dans une étude, donc autre enquête réalisée par OpinionWay en novembre 2022, donc mine de rien assez récente pour Slack, réalisée auprès d'un millier de personnes, qui nous dit que 7 employés sur 10 disent travailler dans un environnement de travail flexible. C'est-à-dire que fin 2022, c'est déjà le cas. On considère que les avancées, elles sont quand même assez significatives. C'est quoi ? C'est les résultats du Covid ? C'est les résultats de tout ce qui a été développé avec la souplesse du télétravail, par exemple ?
Oui, alors, tout se dépend ce qu'on met sous le terme de temps de travail flexible. Je doute qu'il y ait une proportion aussi importante de salariés qui puissent choisir leurs horaires de travail. Hein, disons que maintenant, dans une majorité de cas, vous avez des aménagements de plage horaire, vous pouvez discuter sur les horaires de fractionnement le midi, les temps de pause. Il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent être faites. Mais il ne faut pas non plus imaginer que une grande majorité de salariés travaillent à la carte. On en
c'est
est
ça.
Encore très très loin.
Voilà. Vous, ça remonte à quand chez Elsia?
Mise en place en 2019, donc on a déjà un petit peu de recul sur
avant la crise sanitaire.
Absolument, oui, tout à fait. Et à la fois, évidemment, le Covid est venu bouleverser et apporter encore plus de demandes de nos salariés à ce niveau-là. Et donc, pour moi, la bonne recette, ce qui fonctionne, c'est de coupler les horaires flexibles avec un juste dosage du télétravail notamment. C'est ce qu'on a fait post-Covid.
Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer pour les RH, hein, entre l'arrivée du télétravail, quand même une organisation de votre côté
c'est
à avoir.
C'est ce qui rend le métier passionnant, de mon point de vue, franchement, parce que justement, plus la société évolue, plus la fonction RH prend de l'ampleur.
Et ça implique de former les RH, ça implique de recruter aussi plus.
Absolument,
de faire grossir les équipes.
Oui, tout à fait, de vraiment se spécialiser. Voilà, moi je vais avoir quelqu'un qui est dédié au recrutement, quelqu'un qui est dédié à la montée en compétences et à la mobilité, à l'évolution de nos salariés.
Et avant, il n'y avait pas ces personnes avant 2019
Non, voilà, non, l'équipe s'est structurée aussi au fur et à mesure que nos line managers se sont structurés. On est une entreprise en croissance qui va très bien et forcément on doit structurer l'équipe RH à ce niveau-là.
La moyenne d'âge dans votre groupe, c'est 35 ans. C'est aussi, ça montre que ça encourage à passer le cap. Il y a une demande d'une génération peut-être plus jeune.
Absolument.
Qui aujourd'hui ne veulent plus faire les horaires de boulot à la papa-maman, quoi.
Exactement. On est face à une génération exigeante qui veut du temps. Voilà, qui veut du temps pour leurs loisirs, pour passer du temps avec leurs enfants. Donc ça, on se doit de le respecter aussi et de s'adapter.
Bertrand Martineau, c'est un argument d'attractivité, de recrutement aujourd'hui pour retenir les talents. Il faut proposer une certaine dose de flexibilité, même si on a bien compris que dans certaines entreprises, c'était pas possible.
Il y a toujours des possibilités de flexibilité quand même, mais elles sont plus ou moins importantes. Bon, maintenant, le télétravail est un argument souvent assez décisif pour le recrutement. Donc ça, maintenant, c'est rentré dans les mœurs, hein, il n'y a pas de sujet. Mais effectivement, de plus en plus, les salariés sont en attente d'organisation du travail plus flexible. Et alors, au passage, ça implique un mode de management un peu différent, enfin même très différent, et beaucoup de responsabilités pèsent sur les épaules des managers de proximité, en fait. Parce que quand les horaires sont fixes, quand l'organisation du travail est rigide, finalement, c'est pas très difficile de manager. Il suffit de contrôler, de surveiller et éventuellement de sanctionner, cas échéant. Bon. Là, vous êtes dans la négociation, c'est-à-dire que ces flexibilités, ça peut pas, sauf peut-être dans certaines entreprises, ça peut pas être open bar. Donc il faut négocier. Il faut veiller à l'équité entre les salariés, par exemple. Il faut prendre des décisions collectives. Il faut faire participer les personnes à l'élaboration
du planning.
Il faut
travailler aussi peut-être les RH plus avec les managers intermédiaires. qui subissent un peu cette nouvelle organisation.
Parce que quand même, dans la plupart des entreprises, ces managers de proximité ont également une pression très forte en termes de rentabilité, en termes de productivité. Et donc, parfois, ils peuvent être mis en injonction paradoxale, c'est-à-dire à la fois de donner le plus possible satisfaction à leur équipe, et en même temps, ils sont sous la contrainte de chiffres, ils font du reporting aussi, et ça peut être parfois très compliqué.
Bon, un phénomène qu'on continuera bien sûr à suivre dans cette émission aussi. Merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça avec nous, Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne, et Stéphanie Robin, qui nous venait de Lyon, DRH du groupe Elsia. Merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Et à l'approche de la nouvelle année, c'est Stéphane Morioux qui nous suggère de nous pencher sur nos frustrations pour bien choisir les combats de 2024.
Port de Saint-Malo, fin du XVIIIe siècle. Robert Surcouf, le célèbre corsaire malouin au record de prise inégalée, rentre vainqueur d'une bataille menée contre la marine d'Albion. L'ennemi anglais est fait prisonnier. Sur les quais de Saint-Malo, la tension est palpable. L'amiral anglais, déchu, prend Surcouf à partie et lui lance « Beau Surcouf, vous n'êtes qu'un vulgaire corsaire. Vous ne vous battez que pour l'argent, alors que nous, de la marine anglaise, nous nous battons pour la gloire et l'honneur du pays. » Et Surcouf, dans un élan de génie, de répondre « Chacun se bat pour ce qui lui manque le plus. Chacun se bat pour ce qui lui manque le plus. » Si le fait historique n'est pas avéré, le trait d'esprit est somptueux. Nos frustrations sont des moteurs puissants. Chacun de nous possède des aspirations, des talents, des potentiels inexprimés. Pour quelle juste cause avez-vous envie de les mobiliser? Les fins d'année sont propices aux bonnes résolutions. Alors c'est peut-être le moment de vous interroger sur ce qui vous frustre vraiment et qui constituera votre combat de l'année.
Happy Boulot, le labo RH.
En 4 minutes aujourd'hui avec Martin Malinvaux. Bonjour Martin.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Happy Boulot. Vous êtes le fondateur de Food Truck Agency, un réseau de 1000 food truck partenaires depuis 2015. Votre objectif, raccourcir le temps de restauration pour les salariés pendant leur pause déj, un peu à l'américaine. Là, enfin, moi, je vois l'avocat d'affaires qui descend de sa tour et qui va acheter un hot dog, quoi. C'est ça le principe?
C'est un petit peu ça. Ouais. Alors, c'est pas vraiment une cantine, mais en gros, c'est un certain nombre de camions restaurants, donc de food trucks, qui peuvent venir au pied des entreprises pour mieux faire manger aujourd'hui les gens, donc en complément ou en alternative à la cantine.
1000 food truck partenaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des food trucks qui travaillent uniquement pour vous?
Ce sont des indépendants, effectivement, qui adhèrent à notre réseau, qu'on va sélectionner sur des critères de concept, de qualité, d'hygiène, etc., d'humain. On aime bien bosser avec des gens sympas. Et on va les placer, du coup, sur les entreprises, en faisant en sorte que ce soit systématiquement des food trucks différents. L'idée, c'est de ne pas manger la même chose chaque fois.
Ah oui, c'est important aussi. On n'a pas envie de manger tout le temps les mêmes plats quand on est au bureau. L'intérêt pour l'indépendant qui a son food truck, c'est quoi? C'est de bénéficier de votre réseau, de votre maillage et votre lien avec un certain nombre d'entreprises partenaires déjà?
Exactement. C'est-à-dire que ce sont les entreprises aujourd'hui qui sont clientes chez nous. Nous, on va leur apporter un certain volume d'affaires qui va leur permettre de vivre correctement parce qu'on a un minimum de 40 couverts pour que ces indépendants soient rentables. Mmh. Et donc voilà.
Donc ça s'adresse à qui? C'est côté entreprise, c'est plutôt des TPE, PME ou vous êtes aussi en collaboration avec des grands groupes?
C'est plutôt que des grands groupes, que des entreprises de plus de 200 personnes, parce qu'il y a un palier statistique à respecter pour que ce soit rentable pour eux.
Et donc il faut faire combien de services, enfin combien de plats à chaque repas?
Il faut qu'ils fassent au moins 35-40 couverts pour être intéressés à se déplacer chez nos clients.
Ah ouais, mais ça, si vous travaillez pour les grands groupes, normalement c'est largement atteint, non?
Oui, sauf que les grands groupes peuvent avoir justement déjà des solutions existantes, frigo connecté, de la livraison, des cantines, et nous on travaille d'ailleurs avec nos confrères pour placer cette solution en complément.
Et ensuite, donc il faut quoi? Il faut convaincre, parce que j'imagine que vous cherchez à faire de la croissance, à trouver des nouveaux clients, des nouvelles entreprises partenaires. Celles qui ont déjà ces solutions frigo connecté, corner, il y a beaucoup aujourd'hui, ou même des cantines déjà en interne, c'est quoi l'argument pour leur dire mais prenez cette solution supplémentaire, ça peut être bien?
Bah écoutez, il y a deux choses. Nous, on propose une solution qui est complémentaire, qui est de qualité, qui est hyper diversifiée, parce qu'on peut avoir, en fonction des régions de France, parce que, par exemple, à Bordeaux, on va avoir une quinzaine, vingtaine de styles culinaires différents. À Paris, on va avoir une trentaine de styles culinaires différents. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter de la variété pour manger des choses vraiment différentes. Et c'est un atout pour les DRH des grands comptes, parce que ça permet d'apporter de la cohésion. Le food truck, c'est quelque chose de qualitatif, mais de fun. Mmh. Ça permet d'avoir une solution conviviale au pied de l'entreprise.
C'est un coût financier pour l'entreprise ?
C'est un coût financier, effectivement.
Ouais. Comment on peut l'évaluer ?
Alors, c'est un abonnement qui est mensuel, qui est très léger pour les grands comptes, parce que nous, on protège nos food trucks partenaires, qui sont des artisans. Et donc, c'est en tout cas beaucoup moins cher qu'une cantine classique, parce qu'il n'y a pas de frais fixes.
On peut utiliser les tickets resto quand on passe chez vous ?
Bien sûr, ça fait partie de nos critères de décision pour nos clients, c'est-à-dire qu'on recrute nos food trucks partenaires et on va s'adapter par rapport aux moyens de paiement des collaborateurs. Ça, c'est hyper important. Titre restaurant Edenred, Swile, Up Déjeuner, etc.
Ça marche avec tout. Dernière question, mais il y a la traçabilité, le contrôle de la nourriture qui est très important quand on fait venir un prestataire qui, en plus, est à l'extérieur de l'entreprise. Donc, psychologiquement, c'est encore autre chose. On doit sortir des bureaux pour aller chercher à manger. Vous garantissez que les aliments sont de qualité.
C'est ça. Alors, nous, on favorise les food trucks qui fonctionnent en circuit court, qui poussent le bio, qui respectent la réglementation de l'hygiène française. Et puis derrière, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais on a une application de Click and Collect qui va permettre aux collaborateurs de gagner 20 minutes de pause-déj et il va pouvoir, comme toutes les applications d'aujourd'hui, noter leur repas de 5 étoiles, laisser un commentaire.
Merci.
Ça nous permet de tout contrôler.
Très clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté Food Truck Agency, Martin Malinvaux. Merci d'être venu dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez comme toutes les semaines cette émission en replay, en podcast sur notre site et toutes les plateformes de streaming et de podcast. Abonnez-vous pour recevoir d'ailleurs les nouveaux épisodes. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.